Voilà, bonjour à tous. Et je vous dis tout de suite, le message que je vais partager avec vous ce matin est une étude de la parole de Dieu qui a été, est d'une certaine manière une conséquence de tout ce que nous entendions. On a entendu parler au début, et ça a été une façon pour les médias d'ailleurs de régler certains comptes, de ces évangéliques. Et alors qu'en réalité, ils ne sont pas plus responsables du virus que tous les autres. De toute façon, le virus, il se promène et il se promènera encore. Mais bon, on aura parlé de ces rencontres où ils jeûnaient, vous vous rendez compte. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, en fait, il y a combien de temps que tu as prêché sur le jeûne? Et là, je dois vous avouer, alors là, à ma grande honte, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Tu laisses ce sujet-là de côté depuis des années. T'en parles pratiquement pas. Si, il y a des moments, s'il y a une réunion de jeûne, alors tu lis les passages, notamment, vous savez, des prophètes, voici le jeûne que Dieu apprécie, tout ça, amen, et on jeûne, pas terminé. Je me suis dit, c'est ça une étude de la parole de Dieu sur le jeûne? Oh là là, tu as du retard, mon frère. Alors, c'est un peu parti de là. Et je vous dis tout de suite, c'est pas du tout, le message ne sera pas du tout, même si peut-être va-t-il remettre en cause certains aspects, une contestation à ce qui se fait. Le but, ça a été pour moi de me dire, allez, mets-toi d'aplomb avec ce que le Seigneur peut dire sur ces choses. Et j'ai découvert, je dois dire, toute une évidence qui ne m'était pas apparue dès le départ. En effet, regardez et rappelez-vous, vous allez avoir l'occasion, alors je prêche avec des gens formidables, avec mon frère Bordeneuf devant moi ce matin, je me dis, il connaît bien cette passage. Rappelez-vous de tous les textes qui parlent du jeûne, admettons, dans les évangiles. Bah, on peut essayer déjà de se dire, voyons voir, quelle est la place que le jeûne a pu prendre dans la vie de Jésus? Alors je vous dis tout de suite, moi j'ai trouvé un grand passage, mais j'en ai trouvé qu'un. Un jeûne particulier de 40 jours et 40 nuits. Et alors ça va peut-être ma première lecture pour situer un petit peu les événements, mais je vais vous dire tout de suite, ça ne sera pas la seule, il y en a plusieurs. Dans Matthieu chapitre 4, je vais lire les deux premiers versets simplement. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, lui dit. Alors, il lui a dit des choses par trois reprises, si tu es le Fils de Dieu. C'était quand même impressionnant que quelqu'un puisse aussi dire quelque chose comme ça à Jésus. Il fallait être le diable. Mais j'ai remarqué ceci tout de suite. C'est le seul événement où il nous est parlé de jeûne dans la vie de Jésus, dans son ministère parmi les hommes. Et alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, les témoins de l'Évangile et le Saint-Esprit n'ont pas jugé bon de nous en faire part. Et par contre, ce qui est aussi impressionnant dès le départ, c'est que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, et que c'est après qu'il a été tenté. Alors quand il y a un petit mot comme « il eut faim », on peut le comprendre. Mais vous imaginez que la première question du diable, ça a été de lui proposer une nourriture. C'est-à-dire que dans la vie de Jésus, le jeûne a été considérable à un moment donné, parce qu'il y avait une action unique et considérable qui allait se produire, une façon extraordinaire que Jésus devait accomplir dans son ministère, auquel on ne pense pas, c'est que lui qui est présenté comme le second Adam allait prouver au diable que le second Adam avait résisté là où le premier Adam avait failli. Il n'a pas failli. Il est resté maître de la situation, et c'est le diable qui est parti. Et c'est Jésus qui est resté maître de la situation. Moi, je m'en réjouis. C'est le seul moment où je comprends que, vous savez, quand Jésus a dû jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, je pense que quand Jésus jeûnait, ce n'était pas pour regarder les petits oiseaux, la nature. Il avait été emmené dans le désert, et donc dans des lieux de solitude. Ce n'était pas pour se dire, oh, quelle remarquable situation. Non, non, ça a été sûrement un travail spirituel. Ça a été une action profonde de l'Esprit de Dieu dans son cœur pour le préparer. Jésus savait ce qu'il attendait et il a été remarquable dans cette action. Et puis voilà, on n'en parle plus. Et par contre, dans les évangiles, on va trouver que les hommes en parlent. Alors je vais vous inviter à voir un autre passage, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 14 à 17. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen, voilà. Donc, alors je vous lis tout de suite ce texte. Vous pourriez en retrouver les parallèles dans les trois évangiles, les trois premiers évangiles, dans Marc ainsi que Luc, dans les débuts de ces chapitres, Marc 2, Luc 5. On retrouve bien, effectivement, des parallèles avec peut-être des fois un petit détail ou deux de nouveau en plus, mais ça a été rapporté tellement cela avait marqué. Et c'est là où mon interrogation a commencé, parce qu'au fond, je me suis dit, la réponse de Jésus, elle est assez étonnante. Les amis de l'époux. Je vous dis tout de suite que quand Jésus a prononcé cela, je suis sûr que ceux à qui il a parlé n'ont rien compris. Les amis de l'époux, qu'est-ce que c'était pour eux? Une image, mais ça, ils avaient bien du mal à admettre quelque chose de consistant. L'histoire de s'affliger pendant que l'époux est avec eux. Et puis quand il ne sera plus avec eux, alors là, oui, ils seront dans la tristesse. Mais, et puis il va ajouter, on le retrouve dans les autres évangiles aussi, deux images. L'image de l'habit, et l'image du vin dans les outres. Alors, ça m'a interpellé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux images? Qu'est-ce que j'ai? Alors, vous savez, je me suis aperçu d'une chose. Le jeûne dont parlent les disciples de Jean le Baptiste, et qui s'étonnaient de ce qu'eux jeûnaient, tandis que les disciples ne jeûnent point, mais les pharisiens, eux aussi, jeûnaient. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, le jeûne est particulièrement noté dans certaines catégories, notamment des pharisiens. Je ne vous en prendrai qu'une, mais celle-là, vous la connaissez, je n'ai même pas besoin de citer trop le texte. Il y a un pharisien, un jour, qui est entré dans le temple pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et il a commencé par une phrase magnifique. « Mon Dieu, mon Père, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Quand vous commencez comme ça, vous avez tout dit. Vous êtes déjà tellement haut, hein ? D'ailleurs, il a insisté, il a donné des arguments. C'était pas n'importe qui, ce gars-là, puisqu'il jeûnait deux fois la semaine. Et là, on tombe sur un sujet qui m'a intrigué. Et je me suis aperçu qu'en effet, quand je parle des fois même avec les étudiants de ces domaines, je leur dis, oui, c'est vrai, les Juifs avaient des habitudes qu'ils avaient prises depuis le temps de retour de déportation, et ils avaient des rituels dans le jeûne. Certains souvenirs douloureux avaient été élevés au rang de journée de jeûne, parce que c'est un des premiers aspects que le jeûne peut recevoir, en effet, avoir, c'était de rappeler la douleur et la souffrance. Alors les Juifs jeûnaient, admettons, le 9 du mois d'Ab, qui est aussi la date anniversaire de la destruction du temple par Nebuchadnezzar. Vous imaginez le souvenir terrible que cela représentait pour les Juifs. Et ils l'avaient gardé un jour de jeûne et d'humiliation au souvenir de telle chose. Mais de nombreux jeûnes avaient été ajoutés. Et donc, dans Luc 2,37, cet homme n'hésite pas à dire « Je jeûne deux fois la semaine ». Alors, quand on regarde notamment le Talmud et tous les écrits d'époque, on s'aperçoit qu'effectivement, la règle était de jeûner, alors je vais vous donner les jours, dans les jours de notre semaine à nous, hein, le lundi et le vendredi. Vendredi parce qu'il fallait se préparer au Shabbat, et puis le lundi parce qu'après une journée après le Shabbat, il fallait de nouveau avoir... Alors, il y avait des jeûnes rituels deux fois la semaine. Et les pharisiens ne manquaient pas de faire étalage de leur fidélité, dans ce que d'ailleurs Jésus appellera la tradition des pères. La tradition des pères, ce n'est pas la loi de Moïse, hein. Faisons bien la différence. C'est la tradition qu'ont ajoutée les hommes au cours des siècles. L'apôtre Paul, qui fera référence, admettons, à ce qu'il a été, et à quelqu'un qui a été d'une implacable exigence concernant les lois et les règles religieuses, dira, en parlant de ces textes, la tradition des anciens. la tradition des pères, la tradition des saints, c'est la même chose. Ça n'est pas la loi que de Moïse avait donnée. C'était des choses qu'on avait ajoutées. Et on s'aperçoit ainsi que ça a été un vrai problème. Nous sommes, n'oublions pas, au moment où les évangiles nous sont donnés, avec des hommes qui vivent selon l'ancienne alliance, selon les choses qui ne sont pas encore accomplies, que lui va accomplir. Et les disciples de Jean ont répondu à quelque chose d'extraordinaire. Un prophète s'est levé et il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors ces hommes, qui manifestement étaient des hommes pieux, des juifs pieux, se sont tournés vers ce message, ils sont venus à Jean-Baptiste, ils ont été baptisés dans le Jourdain, et Jean-Baptiste d'ailleurs a dû certainement dire pas mal de choses, parce que quand il voyait des gens qui venaient uniquement pour se faire trempette dans l'eau et ne rien changer à leur vie, il avait une façon de les qualifier qui n'était pas courante. Hein. Il leur disait « mais race de vipères !» Je ne vous dis pas ça ce matin, rassurez-vous. Hein. Mais bon, Jean-Baptiste exprimait que venir se repentir et donc faire demi-tour et revenir à Dieu, ben, ça impliquait une vie qui était marquée par le geste. Bon, alors de tout cela, on avait gardé beaucoup d'attitude et surtout, on s'était dit, bon, ben, on veut bien revenir à Dieu, mais on va garder toutes ces choses qu'il faut accomplir, que les anciens nous ont enseignées. Et les disciples de Jean-Baptiste, en hommes pieux, et ça c'est tout à fait respectable, eh bien, hommes de l'ancienne alliance, avaient gardé ces attitudes de jeûne, que je vais dire, des jeûnes de commande, des jeûnes qui sont fixés, de rituels, si vous voulez. Seulement, il y avait un problème. On a regardé Jésus de près, on l'a toujours regardé pendant son passage parmi les hommes, dans le moindre détail. Hein. Puis on a regardé aussi les disciples. Alors, les disciples, ce n'est pas le seul passage où on va leur faire des reproches. Hein. Il y avait tellement de rituels. Il y a un autre passage où on leur dit, mais dis donc, tu as vu tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Alors vous prenez ça comme un geste d'hygiène, je vous dis tout de suite, c'était absolument pas ça. C'était un geste rituel pour être purifié si jamais on avait touché quelque chose d'impur. Si, alors, en ce moment, ça ne pose pas de problème, hein, on ne se serre plus la main. Mais si vous aviez serré la main dans la journée à quelqu'un qui avait touché un animal mort, vous étiez impur. Alors, de cela, et en fait, se laver les mains, je vous dis tout de suite à l'époque, c'était qu'un esclave vienne et vous verse de l'eau sur les mains, vous agitiez les mains, ça y est, les mains étaient rituellement pures, c'était terminé. Donc, ne nous mettons pas avec l'erreur que vous avez raison de vous laver les mains, mais c'est une mesure d'hygiène. C'est venu beaucoup plus tard, vous savez, à cause d'un certain monsieur Pasteur. On a compris l'importance. Mais ce n'est pas ça du tout qui est dans notre texte. Non, non, tes disciples, ils ne se lavent pas. Et puis, en plus, il y a pire, ils ne jeûnent pas. Et pendant que nous jeûnons, il y a même un texte un peu loin qui dit que nous prions, eh bien, tes disciples, ils font quelque chose de terriblement grave. Ils mangent et ils boivent. Alors ne croyez pas que c'était un texte qui avait pour but de dire qu'il y avait des excès. Et non, ils vivaient normalement comme des humains. Ils assumaient les besoins de leur corps par un breuvage totalement très, très sain et sans excès, hein, de l'eau peut-être d'ailleurs, et puis ils mangeaient. Voilà. Ça c'était terrible. Nous qui sommes beaucoup plus spirituels que toi, nous jeûnons deux fois la semaine. On est dans ce contexte quand on vient voir Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus va répondre ? Non, mais mes amis, mes disciples sont encore plus hauts que vous ne pensez, ils n'ont pas besoin de ça, eux. Non. Il va leur dire, mes amis, voilà, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Vous avez compris de qui il parle ? L'époux, c'est qui ? C'est Jésus. Les amis de l'époux ? Eh bien, c'est les disciples, et c'est même vous, dites donc. Amen. Hein ? Amis de l'époux, c'est un beau titre, vous savez. Et il leur dit, tant qu'il est avec eux, ils se réjouissent. Parce que le jeûne, il va le rappeler, c'est un signe d'humiliation et de tristesse. Ou alors de besoin de connaître les plans de Dieu. Mais de toute manière, ils ne sont pas dans ces conditions-là. Oh, il va dire une chose prophétique extraordinaire. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Le temps était très court, vous savez. Mais même sans qu'on ait besoin de savoir s'ils ont jeûné, quand on voit leur attitude, on peut comprendre qu'il y a eu pendant 3 jours, quelque chose de terrible dans la vie. Ils étaient sans l'époux. Ils avaient perdu leur maître. Il était mort. Et il faudra, et d'autres passages l'expliquent, on voit bien que c'est à faire en parallèle, le rappel que Jésus annonce là, c'est la mort. Là, ils vont être privés de l'époux. Et il faudra que l'époux vienne les voir pour qu'ils comprennent. Jésus leur avait dit, vous serez bientôt, je vais vous quitter et vous serez dans la tristesse. Mais je reviendrai et là vous serez dans la joie. Et ça, je vous assure qu'ils ont dû oublier de manger pendant le temps qui est entre le moment de la mort et le moment où Jésus est venu au soir du troisième jour. Et l'appétit était coupé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand quelqu'un vit une souffrance terrible, quand quelqu'un vit une terrible déchirure, bien, il en perd l'appétit aussi. Et ça, ça fait partie des réactions d'un être humain. Mais heureusement, l'époux leur a été rendu. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est que depuis que je connais l'Évangile, je l'ai pas prêché ou que je l'ai entendu prêcher, j'ai toujours entendu la même chose, c'est formidable. Et mon frère l'a dit tout à l'heure, alors je me suis dit, alléluia, il va servir ma prédication. Jésus est avec nous. Vous êtes d'accord ? Il leur avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur, celui qui sera avec vous, et qui est aussi la présence de Dieu avec vous. Et nous avons tout à fait raison de dire ce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'est pas dans des temps de tristesse, mes amis. On a des temps de joie, parce que nous sommes avec l'époux. Alors il y aura une grande réunion, je sais. Mais moi, c'est ce matin, je me réjouis parce que Jésus, je me dis d'ailleurs, fais attention à ce que tu dis, Jésus est là quand tu parles. J'ai beaucoup aimé, j'étais au début de ma carrière, j'étais invité un jour dans une église qui avait une espèce de petit fronton au-dessus de l'église, et le pasteur responsable avait eu cette idée de mettre juste au-dessus du pupitre, « Frère, Dieu t'entend et t'écoute ». Et il m'a dit, des fois, il y en a qui lisent, pouf, ils deviennent tout blancs. Ben, écoutez, il faut bien réaliser une chose, Jésus est au milieu de nous, alléluia. Et je me réjouis d'ailleurs de sa présence. Voilà ce que Jésus commence par dire. Alors, on ne peut pas se lamenter, et si l'époux est là, il est avec nous, on est dans la joie. Et il va prendre deux images impressionnantes. Il leur dit, mais regardez, pour expliquer, parce que Jésus savait qu'il fallait mettre les choses spirituelles à portée des hommes, tellement c'était au-dessus de leur compréhension. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Vous savez que les habits, à l'époque, il n'y avait pas tout à fait le même problème que vous avez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter des vêtements, vous regardez de quelles fibres ils sont faits. Et vous avez une variété impressionnante. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de 36 manières de faire un habit. Il y avait le lin pour les empereurs, les rois, les gens élevés en dignité et ayant les moyens, et puis aussi pour les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. C'était les seuls à porter des vêtements de lin, parce que cette fibre-là était extrêmement rare et difficile d'accès matériel. Puis il y avait une autre fibre, qui était la grande fibre de tous les habits. Et vous l'avez déjà deviné, c'était la laine. Alors imaginez, vous savez, vous n'aviez pas de nylon, hein, vous n'aviez pas d'autres textiles synthétiques. Non, non, tous les vêtements, toutes les personnes étaient vêtues d'habits de laine. Et on ne les tricotait pas à l'époque, ça c'est déjà l'époque moderne. Ils étaient filés. Alors, imaginez ces magnifiques vêtements de laine. Au moins, ça devait avoir un privilège extraordinaire, c'est que ça vous tenait chaud. Et en Israël, en plein été, ça devait être agréable quand même. Mais enfin, on en prenait l'habitude. Mais il y a aussi une particularité à l'époque. En Israël, la laine était filée d'une manière assez naturelle. Et c'est des siècles plus tard qu'on a compris que pour qu'une laine parvienne à être utilisée dans des textiles, il fallait qu'elle soit, comme on dit, décatie, c'est-à-dire qu'il y ait un certain lavage particulier, des traitements particuliers pour que la laine soit fixée définitivement. Les vêtements de laine, à l'époque biblique, c'était fait en laine, je vais dire le mot, non décatie. Ce qui fait que quand on commençait à porter un vêtement, il ne fallait pas le mettre juste à ses mesures, hein. Il fallait que ça soit bien à l'aise. Parce que la première fois qu'on lavait le vêtement, je vais faire le geste, ça faisait... Alors, si on avait pris des précautions, pas de problème. Et on continuait à porter magnifiquement le vêtement. Et qu'est-ce que Jésus dit, mes amis ? Il leur dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Oui, parce qu'on est dans des pays où l'on travaille. On travaille dur, physiquement. Et même si l'on fait attention à ce qui coûte très cher, un habit comme ça, tout le monde étant vêtu de la même manière, en quelque sorte, eh bien, il peut arriver un accident. Et en travaillant, on peut accrocher, on peut être, on peut chuter, et puis l'habit se déchire. Et c'est là où commence le problème. Si l'on va chercher de la laine neuve, alors je vais prendre le mot, hein, la laine neuve, qu'on se dit, c'est pas grave, on va réparer, mets-moi un morceau de laine là où il y a un trou. Et que vous mettez ça, ben, la première fois que le vêtement sera mouillé, vous savez ce qui va se passer? La laine neuve, elle va faire ce que j'ai fait tout à l'heure, crac! Elle va tout déchirer. Et c'est ça l'image de Jésus. Alors qu'est-ce que veut dire Jésus? Il est en train de leur dire, mes amis, dans votre foi, il y a quelque chose d'ancien. C'est l'ancienne alliance. Il y a quelque chose de neuf que vous percevez encore mal et que je suis en train de vous apporter et de vous révéler jour après jour et que vous appellerez et qu'on appellera la nouvelle alliance. Et ces deux choses-là sont entièrement nouvelles. Le problème des, avec sincérité, des disciples de Jean-Baptiste, c'est qu'ils voulaient à tout prix plaquer le message nouveau du prophète et de Jésus sur l'ancien qu'ils avaient toujours eu. Et le Talmud reconnaît d'ailleurs, si vous, c'est certains textes hein, que j'utilise dans d'autres circonstances, montrent, le Talmud reconnaît que les exigences concernant le jeûne n'étaient pas dans la loi de Moïse. On les a ajoutées au cours des siècles, parce qu'on est devenu très intelligent, si vous voulez. Et ce que Jésus est en train de leur dire, mes amis, c'est que vous essayez de plaquer des choses qui appartiennent à une dispensation de la révélation de Dieu sur une nouvelle dispensation qui est complètement nouvelle. Et ce n'est pas en raccrochant les deux et en essayant d'amalgamer tout et de faire du syncrétisme que les choses iront. Ça va être une déchirure. Et comme il sait que ce n'est pas facile à comprendre, il leur prend même une deuxième image. Il leur dit également, on ne met pas non plus du vin nouveau dans deux vieilles outres. Vous savez que les outres, c'était très simple à l'époque. C'était la peau entière d'un animal retourné. Et on ligaturait bien sûr les pattes, on en laissait une ouverte, ça pouvait être d'ailleurs le passage de la tête qui avait été coupé, et c'était l'ouverture de l'outre. Et on peut comprendre l'usage de l'outre à l'époque biblique parce que tous les marchands qui parcouraient le monde, tous les voyageurs qui parcouraient à pied ces pays, ils avaient besoin au moins d'eau. Et l'outre, eh bien, était la meilleure façon, avec une lanière, de pouvoir la porter soit dans le dos, comme ça, et elle vous suivait, et vous aviez de quoi boire. Alors on pouvait y mettre de l'eau, et on pouvait y mettre aussi, on y mettait du vin. C'était la seule manière de véhiculer facilement un liquide à l'époque biblique. Alors lorsqu'il s'agissait d'aller rechercher l'eau pour la journée à la source ou au puits, à ce moment-là, c'était les femmes qui avaient cette responsabilité extraordinaire. C'était elles qui étaient bonnes pour porter les jarres et aller. Il y en a une qui est sortie comme ça un jour, à une heure inhabituelle, et Jésus l'a rencontrée. J'en dis pas plus, vous voyez de qui je parle. Elle était samaritaine. Mais en dehors de cela, on transportait les liquides dans ces outres. Et alors, mes amis, je n'ai pas de regret, compte tenu de ce que je peux apprendre, de n'avoir jamais goûté le vin de l'époque de Jésus. Parce qu'il paraît que le vin de l'époque, vous savez, on ne vinifiait pas du tout comme dans vos extraordinaires régions du Sud hein, et dans notre région du Sud. Non, ce n'était pas du tout ça. On ne faisait pas de transvasement, il n'y avait pas le moule n'était pas retiré. Il paraît que le vin était quelque chose de très fort à l'époque de Jésus. Et quand on le mettait dans du vin qui venait tout juste d'être pressé, fait, et donc qu'on devait le mettre dans une outre, on prenait du vin nouveau, on le mettait dans une outre neuve. Parce que vous aviez un peu un principe très curieux, il était très fort chimiquement ce vin. On n'avait pas besoin de faire de la chimie, mais croyez-moi, il était très agressif. Et quand on le mettait dans une outre neuve, il faisait un peu le même effet sur l'outre que l'eau faisait sur la laine. L'outre, elle se rétractait. Et vous avez compris, c'est le même mécanisme. Imaginez ce qui se passait quand on reprenait l'outre qui avait servi l'année d'avant. On disait, tiens, t'as du vin nouveau, vas-y, mets-le dedans. Alors on mettait le vin, l'outre ne pouvait plus se rétracter, c'était fini. Et c'était toutes les coutures qui craquaient, elle ne pouvait supporter. Ce qui venait se penser que le vin, dites donc, il était quand même costaud à l'époque. Hein, parce que faire craquer une peau de bête, croyez-moi, on s'imagine ce que ça devait être. Mais là encore, vous avez la même image. Jésus est en train de dire, mes amis, vous essayez de plaquer une ancienne règle sur quelque chose qui est tellement nouveau et qui va vous apporter tellement de choses supplémentaires. On n'annule pas, Jésus le dira, on n'annule pas ce qui existe, mais n'essayez pas de plaquer ce qui existait sur ce qui va exister, c'est plus grand et c'est plus beau. Alors voilà les deux images, et on repart avec ça. Alors, j'aimerais maintenant me dire, mais je viens de leur décrire des choses un petit peu négatives. Pourtant, le jeûne existe dans la parole de Dieu. Il existe. vous prenez le livre des Actes des Apôtres et vous apercevez que quand les disciples... Il existe même dans la vie de ceux qui ont connu de grandes souffrances, je vais le dire avant, de revenir aux Actes. Il y a une femme qui était remarquable parce qu'elle, elle savait ce que c'était la souffrance. Elle se tenait depuis son veuvage dans le temple. Et ça faisait longtemps. Et cette femme, quand on était veuve à l'époque de Jésus, je peux vous dire qu'on savait ce qu'était la souffrance. D'une part, déjà, la perte d'un être cher, ça vous prend le temps, mais même de la vie, tout simplement. La vie était une vie de souffrance. Et cette femme savait ce qu'était la souffrance. Et elle se tenait d'une manière assez régulière. Bien sûr, il fallait qu'elle nourrisse quand même son corps de temps en temps, mais dans le jeûne et la prière dans le temple. Et un jour, cette femme qui se tenait quand même dans la souffrance, dans la présence de Dieu, c'est ça qui est important, elle a perçu une nouvelle extraordinaire qu'elle attendait au fond de sa souffrance. Elle allait voir le Messie. Elle l'a décrié dans la personne du jeune enfant que des parents venaient présenter au temple, Jésus, apporté par Marie et Joseph pour le présenter. Mes amis, j'ai été frappé de l'expression de la douleur associée au jeûne. On a du mal à s'imaginer. Nous, on lit rapidement, elle avait été pendant 80 ans, 70 ans depuis le temps de son veuvage. Mais vous imaginez ? Ça veut dire des dizaines d'années de souffrance. Moi, je sais que j'ai vu des gens souffrir pendant déjà un an, deux ans, c'est terrible. Mais des années de souffrance. Et d'un seul coup, son cœur s'ouvrait. Elle venait de voir l'attente la plus extraordinaire. Je pense qu'elle pouvait arrêter de jeûner. Elle était dans la joie. Elle s'est réjouie d'ailleurs. Elle en a parlé autour d'elle. Elle dit, ça y est, je sais que le Messie est arrivé dans ce monde. Je laisse de côté et puis je reviens au jeûne. Dans les livres des Actes des Apôtres, eh bien, on s'aperçoit que les disciples ont eu bien des problèmes, parfois. Si vous regardez les premiers voyages que Paul va faire, et notamment aussi celui qu'il va faire en Asie mineure, en Galatie et autres, Paul prêchera un évangile où il n'y a plus de lien avec le passé et où la vie est nouvelle en Christ. Et il dira, mes amis, je sais ce que je parle, moi le pharisien. Parce que Paul, figurez-vous, avait abandonné ses jeûnes rituels. Il était un homme nouveau. Et là, il y en a qui n'ont pas toujours accepté. Ils l'ont laissé pour mort parfois. Ils l'ont traîné devant les tribunaux. Parce qu'il y avait des juifs qui n'acceptaient pas le message de Paul. Et on voit toutes les difficultés qu'un homme comme Paul a eues quand il annonçait un évangile de grâce et de libération qui remettait les choses à leur place dans la relation de Dieu avec les hommes. Bon, Pierre a eu aussi quelques soucis d'ailleurs, dans la mesure où il a voulu remettre en cause ce qui se pratiquait avant que Jésus ne vienne. Il a osé rentrer dans la maison, alors Dieu a dû un petit peu faire pression pour qu'il y aille, mais il a osé rentrer dans la maison d'un centenier, dites donc. Quelle déchéance. Et pire que cela, il a fait pire que cela. Il a quand même annoncé l'évangile, pendant qu'il annonçait l'évangile, Dieu a rempli du Saint-Esprit cet homme et sa famille. Et ils se sont tournés vers Dieu, ils ont donné leur vie selon le message de Pierre. Alors Pierre s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et maintenant que Dieu les a remplis, je vais les amener à l'obéissance du baptême d'eau, il les a baptisés. Mais quand il est rentré à Jérusalem, on lui a dit, non Pierre, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as perdu le nord ou quoi ? Et Pierre a dû se justifier. Et nous avons un texte extraordinaire où Pierre justifie en disant, mais pouvais-je refuser à quelqu'un que Dieu avait béni de cette manière, non. L'Église se mettait en place, ça a été difficile. Il a été très difficile d'admettre que ce ne soit pas un jeûne rituel, donc un jeûne, je dirais, de commande, mais plutôt que l'on puisse éventuellement se rappeler que dans le jeûne, l'homme humilie sa vie, et dans des circonstances spéciales, il peut s'approcher de Dieu. Alors les disciples ont jeûné et prié. Ils étaient à Antioche. Et à Antioche, alors qu'ils jeûnaient et priaient, ils avaient un grave problème, ils n'avaient aucune réponse. On leur disait de partout, venez, nous voulons entendre l'évangile, venez nous visiter, venez. Bon, il allait falloir se priver de quelqu'un. Alors ils jeûnaient parce qu'ils priaient, parce qu'ils ne savaient pas comment répondre à ce demande. Et puis, Dieu leur a fait comprendre une chose incroyable, c'est qu'il fallait envoyer Paul et Barnabas. Je ne sais pas si vous imaginez, vous, il y a beaucoup de gens qui aiment bien jeûner pour que Dieu confirme ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, vous n'êtes pas comme ça. Il y a des gens qui disent, Seigneur, voilà, on va jeûner, prier, puis on va entendre un message, une prophétie qui nous comblera parce qu'on attend ce qu'on voudra entendre. Mais ce jour-là, ils ont entendu des choses qui étaient terribles. Le Saint-Esprit leur a dit, vous prenez Paul et Barnabas et hop, vous les envoyez. Vous connaissez beaucoup de rassemblements humains où on prend les deux meilleurs pour s'en priver ? Ah oui, parce que je m'avance. Mais je vous dirais franchement que si vous deviez choisir, Paul et Barnabas, ce n'étaient pas les moins bons. Hein. Le Saint-Esprit a dit, mais c'est ceux-là que vous envoyez, vous partez. Alors, rappelez-vous de cela. Hein. Quand vous serez devant un choix particulier, si vous avez deux bons éléments, hein, et puis qu'on vous dit, on a besoin d'éléments pour... Je ne sais pas, je vais prendre des choses très terre-à-terre. Vous avez une colonie de vacances qui vous dit, on voudrait deux cuisinières. De bonnes cuisinières. Ah bon, dans l'église, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait faire de la cuisine ? Et vous avez deux sœurs dans l'église, mais alors, des cordons bleus absolus. Et puis, vous vous dites, attends, mais si elles y vont, elles, pour la gape fraternelle qui va suivre, ça va nous manquer. Alors imaginez, quand si Dieu vous dit, bah oui, c'est celle-là que je prends, hop, les deux meilleures. Et je fais c'est un peu cette image, mais je me dis dans le fond, que Dieu nous apprenne. Que dans le jeûne et la prière, parfois, il imposera des choses que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Mais il nous les impose. Et il a raison. Alors, Paul et Barnabas sont partis. Et un peu après, alors je vous dis tout de suite, là je ne vous dirai pas, non, mais vous trouverez ça dans Actes chapitre 13, les versets 2 et 3. Vous trouverez aussi une autre expérience dans Actes 14, verset 23, c'est assez proche. Mais là encore, là il s'agit de Paul et Barnabas. Ils ont jeûné et prié. Et à chaque fois, Dieu a répondu. Maintenant, j'en viens à ceci. L'enseignement de Jésus sur le jeûne, c'est quelque chose de, je me méfie de moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que Jésus n'était pas un adepte du jeûne sur commande. Il était celui qui, dans le jeûne et la prière, préparait de grands combats. Il l'a fait une fois au moins. Et plus tard, les disciples ont compris que le jeûne, ce n'était, et associé à la prière, ce n'était pas quelque chose qui se pratiquait en quelque sorte rituellement, mais qui répondait à des situations bien particulières où dans notre humiliation d'être humain, dans nos limites humaines, nous avions besoin d'un Dieu qui nous parle et qui nous montre ce que nous devions faire, même si nous n'étions pas prêts à le faire facilement. J'ai quelques expériences dont je veux me rappeler. Je me dis, c'est vrai Seigneur, il est arrivé de jeûner et là tu m'as montré des choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'aurais presque aimé que le Seigneur me montre les choses autrement. Mais il a eu raison de le faire. Mes amis, le jeûne, ce n'est pas de confirmer nos désirs et nos goûts, c'est de nous mettre en place selon le plan de Dieu et seulement selon le plan de Dieu, à la surprise, d'ailleurs quasi des fois générale. Et je me réjouis. Ah, mais vous allez dire, frère, vous avez oublié. Tiens, vous en avez oublié un sur le jeûne et la prière. Il y a un texte qui nous dit qu'il faut faire quelque chose par le jeûne et la prière. Alors, je vous le donne quand même, hein, c'est Matthieu 17, 21. C'est une situation très particulière, je vous signale. C'est une époque où Jésus s'étant séparé avec trois de ses disciples, des autres disciples, leur a manqué pendant quelque temps, et quand il les a retrouvés devant avec un énorme problème, parce qu'il y avait un homme qui était venu se jeter à leurs pieds pour qu'on délivre son fils qui était possédé, et ils n'ont pas pu le faire. Alors ça crée un brouhaha, un truc. Et Jésus est arrivé à ce moment-là, et le Père a dit, écoute, non, ils n'ont pas pu le faire. Et Jésus a eu une parole qui est impressionnante, d'ailleurs. Jésus leur dit, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que certains utilisent la version Semeur ce matin, quand ils lisent leur Bible ? Est-ce que certains ont la version Semeur avec eux ? Vous êtes formidables, je les ai vus. Je ne sais pas lequel des deux frères a la plus forte, mais je vais lui demander de me lire, en faisant bien attention à la Matthieu 17, 21, qui est, donc, on était dans Matthieu 17 quand je vous ai parlé de la... Alors vous regardez bien, vous cherchez Matthieu 17, 21. Il est méchant ce gars, il ne vient pas souvent à Toulouse, mais il vaut mieux pas qu'il vienne trop souvent, hein, ce pasteur. Comment ? Ah mince ! Vous avez une drôle de Bible, vous les frères. Hein ? Comment ? Oh, mince alors, vous avez une Bible, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut jamais rien retirer la Bible. Je vous signale qu'il est dit qu'il faut rien retirer, mais il ne faut rien ajouter non plus. C'est bien, d'accord, le texte est bien là. Vous savez, à l'époque où M. Segond a travaillé, c'est une excellente version, je vous le dis tout de suite, parce que Matthieu 17, 21, dans la seconde, on l'a. Hein. Alors, je vais vous le dire, la parole est 7-6, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et à l'époque où M. Segond a travaillé, il a travaillé avec beaucoup de fidélité, il avait à sa disposition environ 30 à 40 manuscrits assez fiables sur les évangiles quand il a travaillé. Aujourd'hui, les biblistes, le début du XXe siècle a été assez prolixe en découvertes archéologiques, tout simplement parce que ça a été l'époque où on a développé des moyens plus conséquents de fouiller, que ce soit d'ailleurs en Israël ou ailleurs, en Égypte, on a fait des découvertes extraordinaires de textes bibliques. Je bénis Dieu pour le climat de l'Égypte. Avec le sable et la sécheresse de l'Égypte, il y a beaucoup de manuscrits qui se sont mieux conservés dans ces conditions-là que dans d'autres milieux un peu plus humides, voyez-vous. Et alors, on a découvert des textes remarquables. Vous avez peut-être entendu parler de ce codex qui fait foi, d'ailleurs. Il s'appelle Sinaiticus. Pourquoi ? Parce qu'il a été découvert dans un lieu de religieux, de prêtre ou de couvent, comme vous, si vous voulez, dans le Sinaï. Et on l'a trouvé là, et c'est l'un des monuments, parce qu'il est un texte de l'époque des premiers siècles, du premier siècle de l'époque biblique, des premiers siècles, disons, qui est impeccable et qui est vraiment très fiable. On en a retrouvé un autre, d'ailleurs, qui est tout aussi fiable et qui lui correspond, qu'on a appelé le Codex Vaticanus. Vous savez pourquoi ? On ne l'a pas trouvé au Vatican, mais il est au Vatican actuellement, donc dans la bibliothèque du Vatican. Et ces deux textes ont beaucoup servi aux biblistes, d'ailleurs avec d'autres après, beaucoup d'autres, parce qu'on les a considérés. Il y a une curiosité dans ces deux textes d'origine, c'est que comme votre Bible se meurt, il n'y a pas de texte Matthieu 17, 21. Et alors les biblistes se sont posés la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose maintenant. Ils ont retrouvé d'autres manuscrits, les tout premiers de cette époque-là, dans les mêmes situations. Et au 4e, 5e siècle, on s'est aperçu que, curieusement, Matthieu 17, 21 apparaissait. Vous remarquerez qu'il est à la fin d'un paragraphe, donc on le met là, ça ne gêne pas trop le texte au niveau du live, et on l'a rajouté. Je vous ai parlé tout à l'heure, et ce n'était pas par hasard, de cette grande question qui a agité le monde de l'Église primitive, chrétienne, du 1er siècle, entre ce qu'on appelait les judéo-chrétiens et les païens convertis. Certains, essayant, du côté de ceux qui venaient du judaïsme, de dire, mais attention, il faut que les nouveaux convertis acceptent toutes nos règles spirituelles. Et ça a été un des grands problèmes qui a justifié ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Alors, c'est un drôle de mot, mais dans les actes des apôtres, on parle de cette réunion des grands responsables de l'Église à Jérusalem pour la première fois. Et ils ont recherché, ils ont prié, ils ont cherché. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on disait, si vous vous convertissez et que vous n'êtes pas juif, il vous faut passer par les... Si vous êtes homme, eh bien, il faut aussi que vous puissiez être comme nous. Et on imposerait donc aussi les mêmes règles à un homme juif ou non juif. Et puis, il y avait d'autres choses qu'on avait... Et finalement, les disciples qui se sont retrouvés, les responsables, ont conclu ce grand rassemblement en disant, nous n'imposerons rien d'autre que à ceux qui se convertissent du monde païen que de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Et ça, on peut le comprendre, parce qu'il y avait, à l'époque biblique, énormément de mythologies grecques, romaines, avec des quantités de dieux, et les viandes sacrifiées aux idoles étaient vendues après sur les marchés. Or, c'était une association avec un monde fait d'idolâtrie. Donc là, on comprend la sagesse des premiers. Mais ils n'ont pas exigé d'autres règles. On n'était pas besoin d'être circoncis quand on se convertissait. Il y a un cas particulier que Paul a souhaité, pour des raisons d'ailleurs d'annonce du lieu où il annoncerait l'évangile, c'est Timothée, je vous le dis tout de suite. Mais c'est une exception. Il n'a pas imposé cela à quiconque autrement. Et on peut voir donc là encore comment l'Église des premiers siècles s'est battue, et ça a été un conflit qui est rapporté dans différents écrits, contre ce retour à un légalisme par rapport au message libérateur extraordinaire de l'évangile. J'ai été un peu long, je l'admets, mais je voulais quand même vous dire cela. Nous sommes devant des situations où nous avons besoin de nous trouver dans la présence de Dieu dans des moments de notre vie. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas jeûner, mais dans des conditions spéciales, des conditions d'humiliation parfois, des conditions de faiblesse en disant « Seigneur, je suis incapable de comprendre tes plans, j'ai besoin que tu me le montres ». Ça oui, c'est un moment important. Mais nous ne sommes pas dans un système de gestes rituels, de calendrier tel que Jésus l'a redit, en quelque sorte, quand on lui a posé la question pour ses disciples. Alors, je remets en cause des choses que j'ai moi-même pratiquées. Je dois vous dire que j'ai été dans des églises où, le premier mercredi du mois, on jeûnait. Et je me dis, après coup, t'es un âne. Parce qu'il y a des moments où, le premier mercredi du mois, on peut jeûner. Mais il y a d'autres moments où ça pourrait être le quatrième vendredi du mois qui aurait intérêt à s'arrêter puis à jeûner. Mais pas tous les mois, ce quatrième vendredi-là en particulier. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des circonstances dans la vie où ça vaut la peine d'être dans la présence de Dieu et dans le jeûne. Maintenant, faire d'un rituel quelque chose de classique, ça nous fait... Alors, je vous dis tout de suite, ceux qui le font d'une sincèrement. Dans les églises où ça se fait, c'est pas un péché. Mais c'est une perte par rapport à la puissance de ce qu'est le jeûne et la prière. Et voyez-vous, c'était un résultat d'une réflexion que j'ai regardée pendant un certain temps, pendant ces périodes. Je me suis dit, il faut qu'au moins tu puisses le dire, parce que c'est quand même l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi il y a donc... D'ailleurs, un petit détail concernant Matthieu 17, 21. Vous remarquerez que si ce texte était de Jésus lui-même, ça serait la première fois et la seule dans les évangiles où Jésus dirait de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce que quand il a délivré le fils de cet homme, il n'a ni jeûné, ni prié. Il a ordonné aux démons de sortir, ce n'est pas une prière, on ne prie pas les démons. Hein. Il a ordonné aux démons de sortir et le démon est sorti. Donc, curieusement, ça serait le seul passage de l'évangile où Jésus dirait de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Et quand vous regardez le passage parallèle dans l'évangile de Marc, et je vous invite à le faire, vous avez pensé que Marc a dit effectivement une chose qui se rapproche, mais qui n'est pas... Il a dit, ce démon sort par la prière. Et c'est ce qui avait manqué aux disciples, qui, conscients d'une espèce de suffisance, avaient cru pouvoir chasser le démon sans être, Jésus leur fera le reproche, dans la foi. Qu'est-ce qui conduit la foi ? Ben, la prière. C'est quand j'ai besoin de foi que je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande parce que je crois que tu vas me le donner. Si les disciples avaient eu l'attitude de la prière, ils auraient vu l'action de Jésus. Parce que figurez-vous que les disciples, leur erreur, c'était de croire que c'était eux qui chassaient les démons. Et moi, je bénis Dieu parce que le seul qui chasse les démons, c'est la puissance de Jésus-Christ. Il est celui qui délivre. Il est celui qui a remporté la victoire. Et les disciples avaient peut-être commis cette erreur, alors que Marc a eu raison de garder ce qui était un vrai témoignage. Par la prière, ils auraient pu voir quelque chose. Le reste, je le laisse à votre réflexion douloureuse de vous dire que mince alors. Il y a donc que la... Non, il n'y a pas que la Bible Sauveur qui a supprimé 17-21, je vous le signale, mais d'autres versions récentes. Il a fallu de grandes, grandes recherches des biblistes pour oser s'aventurer. Parce que c'est... Vous avez même des versions récentes où le texte de 17-21 figure et il est mis entre parenthèses. Ne soyez pas surpris, c'est aussi la raison. Voilà, mes frères et sœurs, je vais vous inviter à prier parce que je dis que des choses qui peuvent vous paraître très graves. Alors je voudrais simplement dire, Seigneur, conduis-nous à respecter ta parole avant toute chose. Conduis-nous toujours à être des hommes et des femmes de la parole, pas de nos habitudes. Je bénis Dieu pour le mouvement dans lequel je sers le Seigneur, mais ce n'est pas le mouvement qui compte, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Hein.